sur cette thématique qu'on a abordée depuis quelques dimanches, avec cette prière qui est dans le Notre Père, que ton règne vienne. Qu'est-ce que ça veut dire que ton règne vienne? On pourrait aussi le traduire que ton royaume vienne. Dieu veut instaurer son royaume. Bien sûr qu'il veut l'instaurer sur la terre, et un jour ça sera comme ça. Dieu va instaurer son royaume sur la terre. Il aura la puissance politique. Mais c'est pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps de grâce où Dieu veut surtout instaurer son royaume dans notre cœur. Et dans tout royaume, dans tout pays, dans toute nation, si on veut que les choses se déroulent bien, il faut qu'il y ait des lois qui soient posées. Il faut qu'il y ait des choses qui soient là, qui permettent d'être des repères. Imaginez si vous allez sur la route et que chacun fait ce qu'il a envie de faire sur la route. Déjà qu'avec des lois, c'est compliqué quand on conduit. Allez un peu sur le périphérique à Toulouse et vous verrez. Mais imaginez qu'il n'y ait pas de loi du tout. Qu'est-ce que ça donnerait? Une catastrophe. Je crois que plus personne prendrait la voiture tellement on aurait peur d'avoir un accident. Ou alors on achèterait tous des 4x4 pour être sûr de pouvoir résister, ou des gros camions. Mais heureusement qu'il y a des lois, il y a un code de la route, et même si ça nous embête, même s'il y a des panneaux que des fois nous cassent les pieds, mais ils sont là quand même pour assurer notre sécurité. Et les lois que le Seigneur permet qu'il y ait dans son royaume, elles sont dans ce même état d'esprit. Dans la parole de Dieu, il y a un livre où il est dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'était du temps des juges, et le problème, c'est que il y avait des catastrophes dans le pays. C'était pas du tout des temps de victoire, c'était des temps de défaite. L'ennemi, il faisait que gagner, il faisait que y avoir des temps difficiles, sauf quand il y avait des hommes qui étaient là et qui revenaient à la loi de l'Éternel. Et c'est bon que dans ces instants, nous puissions revenir à la parole de Dieu. Alors on va lire, continuer dans ce chapitre 13 de Matthieu. Vous savez que dans ce chapitre 13, il y a toutes sortes de paraboles qui sont données par rapport au royaume de Dieu. Et dans ces paraboles, au travers de ces paraboles, on trouve des lois, des principes, on trouve des vérités qui dépassent d'ailleurs même le cadre des églises, qui sont des vérités incontournables, et combien on a tout intérêt à nous soumettre. Si le monde d'aujourd'hui ne va pas très bien, c'est parce qu'il se détourne des lois que Dieu a instaurées. Mais quand on choisit par nos vies de se soumettre à ces lois, alors c'est la bénédiction de Dieu qui nous accompagne. Matthieu chapitre 13, verset 31, il leur proposa une autre parabole, donc c'est Jésus à ses disciples, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé, qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Amen. Quelles sont les similitudes entre ces deux paraboles? Quel est l'élément qui est commun? Si vous avez fait attention. Petit. Voilà. Eh bien, c'est très simple. Ce matin, je voudrais vous parler de la loi du petit. La loi du petit, c'est quoi? C'est que Dieu produit le grand du petit. Dieu, il résiste aux orgueilleux, à ceux qui s'élèvent, mais la Bible nous dit qu'il fait grâce aux humbles. Celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. Voilà la loi du petit. Alors on la connaît, hein? Et combien c'est important de réaliser que c'est ce que Dieu veut que nous vivions. Est-ce que nous voulons être levés? Oui. Est-ce que nous voulons être bénis? Oui. Est-ce que nous voulons vivre des temps de réveil et de bénédiction, que l'église de Moissac et toutes les églises de la France puissent être visitées par Dieu? Oui. Alors il faut passer par cette loi du petit. Seigneur, je veux m'humilier. Seigneur, je veux me repentir. Seigneur, je veux chercher ta face à genoux. Seigneur, je veux prier vraiment, je veux prendre ce temps devant toi, parce que est-ce que le réveil va venir de quelqu'un qui croit que c'est lui l'instrument du réveil? Non. Bien sûr que Dieu veut servir des hommes, mais on n'est pas qualifié pour ça. Qui peut dire « moi je suis qualifié, moi je suis l'homme de Dieu, moi je suis l'homme de la situation pour la France ». Est-ce qu'il y en a un dans la salle? Ou une femme? Mais non. On est tous devant Dieu en disant, Seigneur, on est tellement petit, tellement faible. Qui ce matin peut dire, moi, face à mes difficultés, je suis faible. Face à mes failles, je suis impuissant. Face aux promesses de Dieu qui tardent, je suis impatient aussi. Ça vous arrive d'être impatient? Moi, ça m'arrive des fois de dire « Seigneur, t'as promis ça, et puis ça met du temps. » Mais le Seigneur produit la patience dans notre cœur. Il veut que cela se développe, mais son but, c'est quoi? C'est de nous amener à genoux en disant « Seigneur, on est trop petit, on ne peut rien, mais par ta grâce. » Ta grâce seule nous suffit, Seigneur. Et ce matin, nous voulons réaliser, oui, que nous sommes petits, mais que Dieu, à partir du petit, il produit le grand. Il fait de grandes choses à partir de ce qui est tout petit. Demandez à ce jeune garçon qui est venu voir le Seigneur un jour et qui avait 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Est-ce que c'est beaucoup par rapport à 5000 hommes? Plus les femmes, plus les enfants. Est-ce que c'est beaucoup? Ben non. Mais qu'est-ce qu'il a fait de ces 5 pains et de ces 2 poissons? Il les a donnés à Jésus. Ce qui est petit de lui, il a donné à Jésus. Et Dieu fait le miracle. Et c'est ça que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Et quand on réalise qu'on n'est pas qualifié, c'est bien de se souvenir aussi de ce passage que Jésus a dit juste avant dans le Matthieu chapitre 11, verset 11. « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux, est plus grand que lui. » Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste était grand de par son ministère? Oui, parce qu'il était le dernier prophète de l'Alliance. Il y avait eu toute une série de prophètes depuis tout l'Ancien Testament jusqu'au début de l'Évangile. On voit le ministère de Jean-Baptiste qui est là et qui est vraiment ce prophète particulier parce qu'il est envoyé pour préparer le chemin du Messie. Et Jean-Baptiste est un prophète encore plus grand que les autres parce que c'est le seul qui a vu le Messie de ses propres yeux. Tous les autres l'ont vu par la foi, mais lui, il l'a vu de ses propres yeux. Et il a eu vraiment la révélation. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il avait aussi un message simple, un message tellement marqué par l'onction de Dieu, tellement marqué par la présence de Dieu, que les gens venaient le voir alors qu'il était dans le désert. Il n'y avait pas de campagne de publicité, il n'y avait pas de tableau d'affichage en disant « Allez voir Jean-Baptiste dans le désert ». Non, il était dans le désert. Et les gens conduits par Dieu allaient jusqu'à là-bas pour entendre ce message. C'est impressionnant quand même. Aujourd'hui, ben, tant mieux, tous les moyens que l'on a pour communiquer, pour faire la publicité, etc. Mais quand il y a l'onction de Dieu, il n'y a pas besoin. Dieu, il fait au-delà de tout ça. Il est capable d'amener des gens dans des endroits totalement improbables pour qu'ils puissent entendre parler de lui. Et Jean-Baptiste, c'était cet homme-là qui a annoncé ce message de repentance. Repentez-vous, car le royaume de Dieu, il est proche. Jésus est venu, lui, amener le royaume de Dieu dans le cœur de l'humanité parce que il a donné sa vie pour que, comme on le disait, le voile soit déchiré et qu'on accède à la présence de Dieu. Et il disait, cet homme, produisez des fruits dignes de la repentance. La repentance du bout des lèvres, c'est facile. Et encore. Mais c'est déjà plus facile que de la mettre en pratique. Et c'est pour ça que quand les gens entendaient le message de repentance, ils disaient, mais Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Que ferons-nous? Et c'est bien parfois de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour manifester ma repentance? Quels sont les actes pratiques que je dois poser pour montrer que je suis vraiment en train de me repentir? Et en tout cas, c'est ce que s'est passé. Et puis ces personnes donc prenaient toutes sortes de décisions qui correspondaient à leur situation, que celui qui avait volé devait rendre à celui qui l'avait pris, etc., etc. Toutes sortes d'actes qui sont présents. Mais cette question doit nous hanter dans le bon sens du terme, doit nous pénétrer en profondeur et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais ce qui est important, si Jean-Baptiste, il est grand, c'est de réaliser que le plus petit dans le royaume de Dieu, il est plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce qu'on est qualifié pour la mission, finalement? Oui, si on est dans le royaume de Dieu. Oui, si on appartient à ce peuple qui a dit, Seigneur, je veux que tu sois le roi. Si Jésus règne sur votre cœur, alors vous êtes qualifié pour la mission de propager sa parole autour de vous. Alors, il ne s'agit pas de dire de belles paroles, mais il s'agit surtout de vivre cette parole. Jean-Baptiste disait, le royaume de Dieu est proche, mais Jésus, lui, nous offre le royaume de Dieu en nous disant, ouvrez votre cœur et je vais venir par ma présence. Le plus petit peut être béni par Dieu s'il accepte que Dieu ait cette autorité dans sa vie. Et c'est le message central de ces deux paraboles qu'on vient de lire. Vous avez vu, elles sont très courtes. D'abord, qu'est-ce qui les concernait? Ben, ce qui est petit, c'est soit le grain de sénevé, c'était un tout petit grain. D'autres traductions disent un grain de moutarde, quelque chose de très très petit. Et puis, du levain. Et dans les deux cas, c'était quelque chose d'infime concernant le reste. Par exemple, le champ. Qu'est-ce que c'est un grain de sénévé par rapport à un grand champ des hectares de terre? Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de méprisable presque. Qu'est-ce que c'est un peu de levain face à combien? 3 mesures de farine. Ça voulait dire 20 kilos de farine, de pâte. 20 kilos de pâte, un peu de levain. Mais voilà, il y a quelque chose de petit, mais de ce qui est petit, Dieu produit du grand. Imaginez comment ça s'est passé dans le royaume de Dieu, de 12 disciples de Jésus, ils n'étaient que 12 au début, combien ils sont aujourd'hui? Ouais, si on tient compte des statistiques, point de vue de tous ceux qui ont la foi en Christ, ils sont plus de 1 ou 2 milliards, je crois. De 12 à 2 milliards, disons. C'est pas mal le rendement. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors bien sûr, il y a les années, mais même au travers des années, c'est là qu'il y a quelque chose qui est fou, ça nous montre que Dieu est un Dieu qui est à l'œuvre, parce qu'il est capable, même au travers des siècles, même au travers des gouvernements, des autorités qui font toutes sortes de lois un petit peu bizarres, mais Dieu est capable de faire son chemin dans le cœur des hommes pour que des hommes et des femmes puissent redécouvrir ce message qui n'a pas pris une ride, qui n'est pas vieillot, qui n'est pas démodé, mais qui est un message qui nous amène à revenir dans la présence du Seigneur. Et oui, on remarque que pour que le grain de blé, pour que le grain de sénévé ou le levain puisse avoir de l'utilité, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en serve. Alors, il y a un paysan qui va semer. Il y a une cuisinière qui va prendre le levain et qui va le mélanger là où il faut. Et nous avons un Dieu qui est capable, dans ses mains puissantes, de faire des miracles à partir de ce qui est petit. Mais ce qui est important de réaliser aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait un endroit où ça soit semé. Le royaume de Dieu, il n'est pas fait pour les martiens. Ça sert à rien d'aller prêcher le royaume de Dieu sur Mars. Vous pouvez y aller si vous avez les moyens, mais ça va pas donner beaucoup de résultats. Parce que le but du royaume de Dieu, c'est d'être mélangé à ce monde. Attention, c'est pas une question, on a bien dit la semaine dernière, la loi du tri, il faut faire attention de pas se mélanger dans notre cœur surtout. Mais Dieu nous a mis dans ce monde et nous appelle à être de ceux qui amènent quelque chose, une faveur, qui amènent quelque chose de bon dans ce monde, qui amènent quelque chose que lui nous permet d'amener. L'amour qu'il va mettre dans notre cœur, ben on peut le déverser à notre tour, autour de nous. La paix, la joie, le bonheur, les promesses que Dieu nous donne, tout ça, on est chargé de mission de la part du Seigneur, de propager toutes ces choses. Quelque part, c'est dans ce monde. C'est bien d'évangéliser les chrétiens. C'est bien. Bon, l'évangile, c'est toujours une bonne nouvelle, donc on aime entendre les bonnes nouvelles. Mais qui sont ceux qui ont plus besoin de l'évangile, si ce n'est ceux qui sont hors de la maison du Père et qui ont besoin d'entendre ces choses de tout leur cœur? Pourquoi est-ce que Dieu permet tout cela? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose de petit qui est mis dans le champ, le grain de sénévé dans le champ? Pourquoi est-ce que il y a un paysan qui choisit de faire tous ses efforts, toute cette étape, pour un but précis, c'est qu'il y ait une croissance? Que ce qui est petit devienne grand. Et c'est exactement ce que Dieu veut que nous vivions dans notre vie. Si vous pensez que votre vie chrétienne est trop petite, eh bien vous êtes au bon endroit, parce que le Seigneur nous dit que de ce qui est petit, il est capable de faire quelque chose de grand. Si on fait les choses selon sa loi. Le problème qui se passe souvent quand on regarde ce qui est petit, c'est d'avoir un regard méprisable. D'ailleurs, Jésus l'a dit d'une autre manière quand il y avait des enfants qui étaient approchés. Gardez-vous de mépriser l'un de ces plus petits. Car je vous le dis que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Leurs anges voient continuellement la face de leur Père. Gardez-vous de mépriser ce qui est petit. Et parfois, quand on regarde quelque chose qui est petit, quand on regarde notre vie, notre faiblesse, quand on regarde nos failles, quand on regarde les moyens que l'on a par rapport aux situations qui nous environnent, quand on regarde toutes sortes de choses, quand on regarde la taille de l'Église comparée à la taille de la France, on peut arriver à un moment donné à se dire « mais c'est méprisable, on a rien, on peut rien faire ». Ça vous est jamais traversé l'esprit des choses comme ça? En regardant vos forces, vos moyens, vous dites « mais Seigneur, comment je vais faire ? C'est pas possible ». Quand les disciples ont vu les enfants, ils les ont méprisés. Ils ont dit « Non, non, laissez, dérangez pas Jésus. Il a d'autres choses à faire que de vous prendre dans ses bras, de vous bénir. » Mais Jésus, vous savez comment il a réagi. Il a dit ça « Ne méprisez pas les petits. Parce que quand Jésus voit ce qui est petit, lui, il voit ce qui est grand plus tard. Et nous avons besoin par le Saint-Esprit d'avoir ce regard renouvelé dans notre cœur et de nous apercevoir que quand quelque chose est petit, il faut l'amener au Seigneur pour que lui le puisse le faire grandir. C'est ça la loi du petit. Vous avez appris cette semaine la mort de Billy Graham, sûrement, qui a eu lieu, c'était mercredi, je crois. Et à l'âge de 99 ans, cet homme n'a eu de cesse pendant toute sa vie d'annoncer partout dans le monde. Je crois que c'est le prédicateur qui a le prêché devant le plus de personnes sur cette planète jusqu'à aujourd'hui. Il n'a eu de cesse de propager ce beau message. En 70 ans, il a prêché dans 185 pays devant plus de 200 millions d'auditeurs dans des stades. Et il était auprès des hommes politiques. Il a eu toutes sortes de portes qui se sont ouvertes pour annoncer ce beau message de l'évangile. Mais ce qui est important de savoir, peut-être que vous ne savez pas, c'est qu'il y a eu une chaîne d'événements pour conduire à la conversion de Billy Graham. Et c'est vraiment important de regarder le tout début. Tout début, ça commence avec un homme, Monsieur Kimball, qui était un professeur d'école du dimanche. Et dans une petite église, à la campagne, un professeur d'école du dimanche, et qui priait de tout son cœur pour que les jeunes enfants qu'il avait, les gars qu'il avait, puissent vraiment se donner à Dieu. Alors il leur faisait la leçon le dimanche, mais il y en avait un en particulier qui était tellement fatigué parce qu'il travaillait la semaine, un jeune ado, et quand il venait au culte le dimanche matin et qu'il était à cette instruction de l'école le dimanche, il s'endormait. Ça arrive des fois. Mais cet homme, il brûlait, Monsieur Kimball, il brûlait dans son cœur et priait. Et il a dit, mais je vais essayer de voir chacun de ces jeunes en particulier pour leur parler vraiment qu'il faut qu'ils s'engagent à suivre le Seigneur. Alors, il est allé là où travaillait ce jeune homme, c'est un magasin de chaussures. Et il est rentré dans le magasin et dans la salle où il stockait les chaussures, ils ont commencé à parler des choses du royaume de Dieu. Ils ont commencé à parler de la foi en Jésus, que Jésus est celui qui sauve, Jésus est la porte qui conduit vers le ciel. Et il a dit les choses avec les moyens qu'il avait, sans trop d'éloquence qu'il avait. Et il est parti de ce lieu. Il n'était pas sûr si le message était passé. Mais dans cette pièce de stockage, le jeune homme qui était là, il a fait vraiment la paix avec Dieu. Il a demandé pardon pour son péché et il a choisi de consacrer sa vie à suivre le Seigneur. Ce jeune homme, il s'appelait Dwight Moody, le pasteur Moody. Et cet homme, jeune homme, est devenu par la suite un grand prédicateur de l'évangile en Angleterre et dans tous les États-Unis. Il a eu un impact incroyable. Encore aujourd'hui, il y a des instituts bibliques qui portent le nom de Moody parce que c'est lui qui les a initiés. Et il a vraiment développé toutes sortes de choses. Mais pendant son ministère, il a prêché à des milliers, des milliers, des centaines de milliers de personnes, mais il y a des hommes qui se sont levés. Un jeune homme s'est levé, il s'appelait Monsieur Chapman, et il est devenu évangéliste. Et à son tour, il a prêché, et il a été devant les foules, et pendant son ministère, un jeune homme s'est levé, qui s'appelait Billy Sunday, qui est devenu évangéliste. Avant, il était joueur de baseball, et il s'est consacré à l'œuvre du Christ. Et il a prêché, et puis un autre jeune homme s'est levé, Mordecai Ham, qui est devenu aussi prédicateur et qui a prêché. Et devinez qui c'est qui s'est levé à cet appel? Billy Graham. Tout ça parce que un monsieur Kimball n'a pas méprisé celui qui était petit. Mais il a vu la puissance que Dieu pouvait faire au travers de quelqu'un qui est tout petit et qui est conduit à l'évangile. Et non seulement Moody a fait du bien, mais tous les pasteurs qui ont suivi ont fait du bien, et Billy Graham encore plus que tous les autres, parce que un jeune prédicateur, un moniteur de l'école du dimanche, prédicateur dans cette section-là, il a pas méprisé ce qui était petit. Le Seigneur nous invite à avoir cette attitude de dire: Seigneur, on veut que tu manifestes ta grâce, mais on veut réaliser combien on est petit à nos propres yeux, combien on est faible, combien on est impuissant. Mais en toi, tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. N'aspirez pas à ce qui est élevé, nous dit l'apôtre Paul, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Voulez-vous que Dieu vous élève? Voulez-vous que Dieu vous bénisse? Alors humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, et il vous élèvera au temps convenable. Il y a un temps. Ça se fait pas en un jour. Un arbre, il pousse pas en 3 semaines. Vous plantez un gland et le lendemain, il n'y a pas de chêne. Ça prend du temps. Ça prend des années, ça prend des siècles même pour certains arbres. Mais après, ça devient quelque chose de majestueux dans lequel Dieu se glorifie. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions que nous vivions chacun pour notre part. Dans Matthieu chapitre 13, verset 51, nous voyons cette deuxième image qui est donnée. Après la loi du petit, une autre loi. Jésus donc a terminé toutes ces paraboles et leur dit « Avez-vous compris toutes ces choses ?»« Oui, répondirent-ils. » Et il leur dit « C'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Amen. Très simple. J'ai appelé cette loi la loi du puits. La loi du puits, c'est que sans source, le puits bientôt tari. C'est compliqué? On peut passer notre temps à puiser dans le puits, et là il nous est parlé de quelqu'un, d'un maître de maison qui tire de ses trésors toutes sortes de choses, mais à un moment donné, si c'est pas renouvelé, eh ben ça va tarir. Et à force de puiser, on devient épuisé. Retenez bien ça, parce que c'est une réalité. Pourquoi tant et tant de chrétiens sont tristes, sont toujours le visage défait, toujours découragés? Parce qu'après avoir donné tout ce qu'ils avaient en eux-mêmes, et je dis bien en eux-mêmes, et bien à un moment donné, ils sont vides. Est-ce que c'est normal? Ben oui, si un puits, la source qui alimente le puits, elle est tarie, ben à un moment donné, à force de tirer sur le puits, ben il ne va plus rien rester. La loi du puits, c'est ça. Mais heureusement, nous savons que la source, ce n'est pas nous-mêmes. Nous, nous sommes qu'un réceptacle de ce que Dieu veut mettre à l'intérieur. D'ailleurs, et dans ce passage, d'où c'est que tirent les choses anciennes et les choses nouvelles le maître de maison? Ça vient d'où? Si vous avez bien lu ces versets. D'où c'est qu'il les tire? De son trésor. Il tire ces choses nouvelles et ces choses anciennes de son trésor. Quel est votre trésor? Je vous fais référence à la semaine dernière. Hein. Celui qui a payé le prix pour nous, c'est Jésus. Et maintenant, nous voulons payer le prix pour lui obéir, pour le suivre, pour faire sa volonté. Mais celui qui nous donne, celui qui est la source de toute chose dans nos vies, c'est le Seigneur Jésus. Et la présence de Jésus, est-ce que c'est vraiment votre trésor? La parole de Dieu, est-ce qu'elle est votre trésor? D'ailleurs, il est dit dans ce verset, « Tout scribe instruit du royaume de Dieu », littéralement, ça m'a impacté ce passage, parce qu'il est dit littéralement, « Tout scribe qui est disciple du royaume de Dieu. Tout scribe. Un scribe, c'est quoi? C'est quelqu'un qui place la parole au centre. Disciple du royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il choisit de dire, Seigneur, je veux que tu sois le roi dans ma vie. Je place la parole au centre parce que je lui reconnais l'autorité. C'est elle qui doit régner dans ma vie. Et c'est cette personne-là qui va tirer de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Si je pense que le trésor, c'est mes plaisirs, c'est mon cœur, c'est ce que j'ai envie de faire dans ma vie, eh ben, vous allez vivre certaines choses, mais ça va, à un moment donné, stopper. Parce qu'il y aura plus de ressources. Et il y a des gens qui passent leur temps à aider, qui le font d'un bon sentiment, qui passent leur temps à aider. J'ai connu, j'ai eu l'occasion de visiter des Restos du Cœur, pas ici, comme ça vous faites pas de lien du tout, mais dans un autre endroit. Et je voyais des gens qui voulaient, dès le début, ils voulaient servir les autres, ils voulaient faire du bien, ils voulaient manifester l'humanisme. Mais j'ai vu des gens frustrés, j'ai vu des gens qui étaient blessants, j'ai vu des gens qui étaient tellement vides à l'intérieur parce qu'ils faisaient ça pour essayer d'apaiser leur conscience, mais quand ils servaient les gens, ils étaient cassants envers les personnes qui étaient là. J'ai dit, c'est dommage, mais c'est une réalité. Quand on essaie de puiser à l'intérieur, à un moment donné, on est vide, et du vide que l'on donne aux gens, ben on fait du mal. D'ailleurs, c'est une image simple, mais quand le puits est vide et qu'on tombe dans le puits, on peut se blesser. Plus que s'il est alimenté. Vous voyez le lien? Combien c'est dangereux d'être vide. Et on a tout intérêt à laisser le Seigneur être notre source. On a tout intérêt à dire, Seigneur, viens remplir ma vie. Viens remplir ma vie de ton Saint-Esprit. L'amour de Christ est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La paix de Dieu est répandue dans nos cœurs aussi. Dieu fait toutes sortes de choses bonnes dans nos vies si on choisit de lui consacrer du temps pour qu'il vienne nous remplir, pour qu'il vienne renouveler les forces, pour qu'il vienne empêcher que le puits tarisse, mais qu'il vienne mettre cette source dans nous. Et puis, il y a cette conséquence qui est là. Le maître de maison tire de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Ça veut dire que suivant le temps, il faut aller plus ou moins profond pour puiser. Des fois, c'est juste à la surface parce que la nappe est bien remplie. Des fois, il faut aller tout au fond demande un peu plus d'effort, demande un peu plus de temps, mais il y aura quelque chose, il y aura un résultat. Et l'image, elle est là, le maître de maison, vous savez, c'était quelqu'un qui s'occupait de toute une maison, de toute une famille, de toute sorte de serviteurs et de servantes qui étaient là sous ses ordres, qui s'occupaient pour que tout le monde puisse avoir à manger, qui dispensaient les biens pour que tout le monde puisse être bien loti. Et donc, il y a ce parallèle qu'on peut faire avec la nourriture. Vous savez que, en plus, dans le pays de France, on est dans un pays où la nourriture, on est quand même assez doué avec ça. Mais il y a des aliments qui ont besoin de temps pour se renforcer, pour s'affiner. Et d'autres qui doivent être mangés frais. Et si on fait n'importe quoi, si on mange les tomates alors qu'on les a fait raffiner dans une cave pendant 3 mois, ça va pas donner le même goût que si elle est fraîchement cueillie sur le pied de tomate. Vous voyez le lien? Et c'est pareil, si vous prenez un jambon de Bayonne, mais qu'au lieu de le laisser raffiner pendant plusieurs mois, en le laissant malaxer avec du sel et tous les traitements qui est fait pour le jambon de Bayonne, ben ça va donner sinon que du jambon blanc. Et vous voyez, parfois on a besoin de prendre du temps avec les promesses de Dieu, à les laisser repasser dans notre cœur, on a besoin de les relire et de les lire encore pour que vraiment on puisse en comprendre le sens. Parfois, c'est la parole qu'on a lue le matin même, quelqu'un nous a peut-être envoyé par texto ou qu'on a lu sur internet ou tous les moyens qui existent aujourd'hui. C'est cette parole-là qu'on va utiliser pour faire du bien à quelqu'un. Ça m'arrive dans les visites parfois que le matin je suis une lecture suivie dans ma parole et je lis un texte et dans la visite ça correspond exactement à la personne. C'est quelque chose de frais, quelque chose d'abondant, quelque chose de bon. Et parfois, il faut chercher dans le grenier, aller chercher, monter l'échelle, dépoussiérer un peu, puis dire, ah oui, mais c'est cette parole que la personne a besoin. La dernière fois, je crois que c'est dimanche dernier ou un des dimanches précédents, quelqu'un m'a dit qu'une des prédications qu'on a portées, un des passages qu'on a étudiés ensemble, a vraiment fait du bien à son cœur parce que c'est quelque chose qu'elle avait lu dans la semaine juste avant. Et le Seigneur est capable de faire ce travail-là. C'est-à-dire que quand je lis un texte et que ça me fait du bien, mais je comprends pas tout, et puis le dimanche, clac, il y a une explication qui se fait, parce que le Seigneur, il prend soin de chacun de ses enfants pour que de son trésor, du trésor qu'il nous offre, on tire des choses anciennes et des choses nouvelles, des choses qui font du bien. Mais toutes ces choses-là, elles sont pas que pour nous, elles sont pour tous ceux qui sont autour de nous. Ça vaut la peine de prendre du temps pour laisser le Seigneur nous sonder nos cœurs, nous rappeler ses promesses, nous remontrer toutes les expériences que l'on a pu faire avec lui, toutes les fois où le Seigneur a entendu nos prières. Ça vaut la peine aussi d'avoir tous les jours ce moment de fraîcheur avec le Seigneur où on retrouve un accès à sa présence particulièrement. Je termine avec cette idée. Quand on est vide au-dedans, mais qu'on fait semblant d'avoir la foi, qu'on fait toutes les choses de la foi, mais qu'on est vide à l'intérieur. Ça s'appelle l'imitation. Et c'est un danger, l'imitation. Il y a cette anecdote qui est là, c'est un président américain qui s'appelle Coolidge, qui a invité des gens de sa ville à dîner à la Maison Blanche. Et donc, les gens ne savaient pas comment ils devaient se comporter à la Maison Blanche. Donc, ils ont dit, ben voilà, on choisit de faire tout ce que le président fait, on fait pareil que lui. Et ils ont tous pris cette attitude, cette résolution. Alors tout le monde, pendant le repas, regardait comment le président se comportait, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude, toutes les fourchettes et les cuillères qui étaient là en triple ou en quadruple. Et donc le moment de venir servir le café arrive, et puis ils voient le président qui verse son café, pas dans la tasse, mais dans la soucoupe. Alors tout le monde fait ça, autour de la table, tout le monde verse son café dans la soucoupe. Et puis Le président demande du lait et il met du lait avec le café dans la soucoupe. Et donc, tout le monde fait pareil. Tout le monde demande du lait et met du lait dans la soucoupe. Et puis, tout le monde s'attend à voir le président prendre ça et le siroter tout doucement. Mais ce que fait le président, c'est qu'il se baisse par terre et puis il donne ça à son chat. Et tout le monde est là en se disant, mais ils ont voulu imiter et ils se sont trompés. Ça veut rien dire. Ils ont gaspillé du lait et du café. Mais on rigole parce que c'est rigolo. Mais parfois, on est dans l'imitation des choses de Dieu, alors qu'on est vide à l'intérieur. On va chanter les chants parce qu'on nous dit qu'il faut les chanter, mais dedans, c'est vide. Le Seigneur veut pas que ça reste comme ça, il veut nous remplir. Il veut pas qu'on soit juste des imitateurs. C'est facile d'imiter quelqu'un qui a la foi. Le dimanche matin, on vient, on chante, on tape des mains, ou on lève les bras, ou on prie, mais on est vide au-dedans. et on va ressortir de ce lieu épuisé. Ou alors on dit, Seigneur, viens me remplir. Viens remplir ma vie. La loi du puits, c'est ça. C'est que s'il n'y a pas de source, alors le puits va tarir. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. C'est pour ça que j'ai choisi ce chant pour terminer. J'ai soif de ta présence.